Le pont d'Aberbeshan. Je crois que vous serez à rançon livré. À rançon, dit-il. Qu'est-ce que dit Ave? Je n'ai denier ne maille. Encore dois-je assez, je dois moult bien 10 000 qu'on m'a sait emprêter. Que je ai despendu, puis que j'y fus planté. Cuvelier. Trois chevaliers traversaient un territoire perdu. La brise de mer courait en longues ondulations sur les prairies du delta. Elle jouait avec la chevelure du plus beau des preux et faisait claquer la bannière du plus sévère. Le vent y animait les chevaux héraldiques du comté de Kimark. Le froissement de leurs robes d'étoffe accompagnait la foulée des destriers. Au nord, l'immense arc de cercle formé par la grève miroitait de mares et de ruissellements avant de s'abandonner à la caresse des vagues. Les élans arrivés du large s'étalaient sur les plages, puis avaient l'air de se prolonger jusque dans les frissons des herbages. Un azur un peu pâle, où dérivaient des nuages de beau temps, se mirait dans le bleu plus profond du golfe de Vicksund. Ça et là crêtait d'écume. Dans cette vastitude littorale, le soleil allumait un feu liquide sur les morts, les bardes d'acier et les harnois blancs. La lumière d'été enrichissait les émaux et les métaux des armoiries peintes sur les boucliers. Le premier chevalier, le banneret qui brandissait les couleurs de Kimark, avait un blason d'argent à l'échelle de Sinople. L'écu de celui qui marchait à sa gauche était orné de 2 pies tête bêche aux ailes coudées. Les armes de celui qui chevauchait à droite étaient d'argent aux 3 épines de Sinople. Malgré la clémence estivale, les 3 preux cheminaient en armes. Seuls les haumes restaient accrochés aux arçons. Pour le reste, les cavaliers étaient caparaçonnés de la pointe du solret jusqu'au gorgerin. La sueur perlait d'ailleurs aux tempes de 2 d'entre eux, les chevaliers à l'échelle et aux épines. En dépit de la brise de mer, la journée était trop chaude pour porter confortablement le gambison et l'armure, quand bien même la cotte d'armes atténuait l'échauffement de l'acier. Seul le chevalier au pis conservait un teint parfaitement frais. Ce n'était point par orgueil ou vaine précaution que les 3 compagnons avaient endossé le harnois. Depuis la veille, ils s'étaient risqués sur une terre périlleuse. Ils avaient déjà croisé plusieurs bandes barbares qui ne les avaient laissés passer qu'à regret. L'une d'elles, formée de Karl ivre, avait failli violer la parole donnée pour attaquer les émissaires. Toutefois, alors qu'ils approchaient du pont d'Aberbeshan, les chevaliers sentaient peser une menace moins précise et plus lourde. 1 mois plus tôt, ce vaste paysage lumineux et ouvert avait été le théâtre d'une écrasante défaite de l'Ost de Bromel. Les immensités de la côte baignaient encore dans l'hébétude des lendemains de désastre. 2 ou 3 lieues devant les cavaliers, comme surgis des eaux, les remparts et les tours de Vekinsberg se dessinaient dans les confins littoraux. La ville occupait un site à l'estuaire de la Morclay, le plus large des bras de la Clay. De loin, l'enceinte avait l'air intacte. À l'intérieur des murs ne montaient que des fumées paisibles. Toutefois, certains détails pouvaient inquiéter des observateurs avertis. Le foyer de la tour réale était éteint et nul voile ne franchissait le môle. Par-delà les vagues où le fleuve se mêlait aux marées, la plaine était assombrie par une vaste toison de forêt. Voilée par la distance, des reliefs bleu pâle fermaient les horizons les plus méridionaux. Ces bois et ces montagnes marquaient naguère les marches de l'Ouromagne. Mais la chute de Vekinsberg et la déroute de la chevalerie bromaloise venait de bousculer les frontières. La digue formée par la Claye avait rompu. Les clans barbares progressaient dans le duché bien au-delà de Rosmaenor, malgré le sérieux revers que les troupes ducales leur y avaient d'abord fait subir. Les bandes de pillards les plus audacieuses menaçaient désormais la vallée du Vernobre et venaient parfois battre les murs de Carwell ou de Chaer-le-Duc. Approchant de Vikingsburg, les trois chevaliers s'enfonçaient désormais en plein territoire ennemi. Seule la bannière aux chevaux courants leur offrait un fragile sauf-conduit. Pour l'heure, les clans concentraient leurs forces contre les armes ducales, tandis que le comte Anguzel de Kimark, ayant mis en défense ses places fortes, s'était gardé de les assaillir. Ni paix, ni trêve entre les clans et le comté. On se montrait les dents dans les finages de Neuvidine, mais les barbares, pour l'heure, s'appliquaient à éreinter le duché pendant que le vieil Anguzel tenait ses forces en réserve. Marcher en vue de l'estuaire de la Claye cet été-là relevait d'une bravoure presque insensée. Tout le pays de Bréquesan, autour de la cité portuaire, était désormais mis en coupe réglée. Certes, seul Edan de Vaumacel, le chevalier aux épines, appartenait au banc ducal. Encore qu'il y fût considéré comme félon. Mais aux yeux de la plupart des guerriers d'Ouromagne, blasons et vasselages n'avaient guère de sens, et les trois compagnons couraient un danger mortel. Une grosse pie vola soudain à la rencontre des cavaliers et se mit à tourner autour d'eux en jacassant bruyamment. « Nous serons bientôt au pont !» annonça le chevalier aux pies. Les réjouissances du pas d'armes de l'immortel ayant pris fin, il ne faisait plus mystère de sa nature et parlait à visage découvert. Il était difficile de se méprendre sur cette carnation délicate, ses pommettes hautes et ses yeux en amande. Mais la jeunesse intangible de l'elfe se trouvait assombrie par une expression un peu dure. « Alors, peut-être devrions-nous nous octroyer une dernière halte ?» dit le banneret qui portait les couleurs de Kimark. « Seul le resplendissant sait ce qui nous attend ensuite. » De sa propre autorité, Gérian de Froek tira les rênes et suspendit la marche. Il tourna sa figure rude, mais non dépourvue d'obligeance, vers son compagnon de droite. « Comment vous sentez-vous, Sir Edan ? » demanda-t-il. « Au mieux, » répondit tranquillement le chevalier aux épines. « L'air est vivifiant, je respire à plein poumon. Si l'échange tourne mal, nous devrons peut-être en découdre, » mit en garde le vassal du comte. « J'en serai fort contrarié pour notre affaire. Je m'en consolerai du moins en fendant le crâne à quelques-unes de ces brutes. » Ces mots prononcés sur le ton de la conversation tirèrent un sourire à ses deux compagnons. « Je suis heureux de vous avoir à mon côté, » salua le chevalier de Froek. « Mais j'en ai aussi quelques scrupules. Vous n'êtes pas encore complètement remis de votre blessure. Vous n'auriez pas dû vous exposer si tôt. » Du gantelet, le chevalier de Vaumacel fit mine de balayer l'argument. « Je suis presque guéri, » éluda-t-il. « De toute façon, l'honneur me commandait de vous assister. J'appartenais à la bataille de Sir Claudas pendant le tournoi. J'aurais dû mieux le soutenir. S'il n'avait pas été capturé à Lindinas, il n'aurait pas accompagné le duc dans sa campagne. Il est de mon devoir de lui porter secours dans la mesure de mes moyens. » Gérian de Froek approuva d'un air grave. « Vous parlez en prud'homme, » opina-t-il. Pour autant, ne prenez pas exemple sur les folies du duc et du connétable. Si nous en venons aux mains avec ces bouchers, ne vous écartez point. Je vous garderai à droite. » Cet échange eut l'air d'amuser le chevalier aux pies. « Seigneur de Froek, soyez sans inquiétude, » intervint-il. Notre hardi compagnon n'a nul besoin de tant de sollicitude. Il y a plus de ressources chez Edan de Vaumacel qu'il n'y paraît.
Parlez pour vous, sire Hamelin, répliqua Gérion. Je suis toujours aussi étonné que vous ayez pu échapper aux Ouromans.
Oh, ce n'était qu'une course, rien qui vaille d'être pris pour un haut fait. Les miens ont toujours vagué à travers le pays, au temps du royaume et dans un lointain passé. Nous savons y passer comme des fantômes, ou bien, en cas de besoin, amadouer ses rustiques occupants. Il est une loi des reins que respectent tous ces frustes Ouromans. Hormis à leurs ennemis, ils doivent accorder l'hospitalité. Cette coutume a permis qu'ayant vu leur chef, il m'ait laissé aller.
Si nous menons notre entreprise à son terme, monseigneur le comte sera votre obligé.
Le chevalier Opi prit le compliment avec légèreté.
Nous en sommes encore loin, éluda-t-il. Le roi Telet Hartclyde paraît rusé. Méfions-nous de ses desseins.
Vous a-t-il dit pourquoi il a fixé le rendez-vous sur le pont? À quoi cela rime-t-il? Ferbassac contrôle les deux rives.
Il n'a pas jugé bon de s'en expliquer.
Peut-être est-ce une façon de nous intimider, conjectura le chevalier de Vaumacel. Après tout, c'est au pont d'Aberbechan qu'il a vaincu l'armée du Cal. Ou bien il cherche à nous humilier en nous imposant cette rencontre sur le lieu de sa victoire. Voyons le bon côté de la situation. Si Ferbassac était animé de mauvaises intentions et nous avait reçus à l'intérieur des murs, il aurait été plus difficile de nous sortir du mauvais pas.
Restant en selle, les trois voyageurs étanchèrent leur soif. Puis, sans plus discuter, ils reprirent leur route. À mesure qu'ils approchaient des remparts, le paysage côtier se trouvait gâté par de sinistres stigmates. Autour d'eux, le sol paraissait abondamment piétiné et presque labouré. L'herbe peinait à y repousser. Des ordures éparses jonchaient ce terrain bouleversé où l'on reconnaissait encore des tronçons de lances, des débris d'écus, des hardes sanglantes. Des essaims de mouches bleues tourbillonnaient autour de charognes de destriers. En revanche, nulle dépouille humaine n'avait été abandonnée sur le champ de bataille. En travers du chemin s'interposa bientôt un cours d'eau. Il s'agissait de la Béchanclay, le bras le plus étroit du delta de la Clay. Les deux arches d'un vieux pont de pierre, bâti à l'époque de la Léomance, l'enjambaient en direction de Vekinsberg. Les parapets de l'ouvrage se trouvaient festonnés par une décoration putride. Un chapelet de crânes de chevaux, plus ou moins décomposés, pourrissait au-dessus du flot. À un jet de pierre de la chaussée, sur l'autre rive, un grand gibet avait été récemment édifié. Sept pendus, encore vêtus de parures sacerdotales, y formaient une grappe macabre. Tous portaient la robe noire des Desiccatoriens. Dans ce lieu désolé, les morts étaient plus nombreux que les vivants. En se présentant devant le tablier du pont, les chevaliers crurent découvrir un huitième cadavre. Un corps était étalé sur la chaussée, à l'ombre de l'un des garde-fous. Il reposait sur le sol couvert d'une fange durcie, où s'étaient agglomérés crottins piétinés et caillots noirâtres. La dépouille s'anima cependant, au son des sabots sur le pavé. C'était un guerrier barbare, dérangé dans son somme, qui jeta un regard glauque au nouveau venu. Armé de briques et de brocs, l'homme portait un bouclier rond d'éclat, quelques pièces de harnois bromaloise et une longue hache de Hauskarl. En revanche, il allait pieds nus. Sa nuque était rasée jusqu'à l'occiput, mais sa trogne disparaissait quasiment sous une frange de mèche grasse et une barbe broussailleuse.
« Hola, maroufle !»
l'interpella sèchement le chevalier de Froek.
« Parles-tu notre langue ?
Es-tu le gardien de ce pont ?
Le va-nu-pied gronda quelques syllabes dans son idiome râpeux, puis porta à ses lèvres un cor dont il hucha deux appels criards. Après quoi, se détournant grossièrement des voyageurs, il se percha sur le parapet et vida longuement sa vessie dans le cours d'eau. Les trois chevaliers se rembrunirent face à un comportement si offensant. Ils ne pouvaient toutefois châtier le butor sans risquer de compromettre leur mission. Ils se contentèrent de toiser le rustre du haut de leurs chevaux et de tout leur mépris. Comme la plupart des hommes d'armes qui avaient déjà défendu la vallée de la Claye, Edan de Vaumacel et Gérian de Froec connaissaient des rudiments du parler au roman. Ils manquaient cependant de pratique et auraient difficilement pu soutenir une conversation approfondie. À peine soupçonnaient-ils l'existence de variantes dialectales. Ils ne comprirent en tout cas pas un mot de ce qu'avait baragouiné le guerrier. Pour autant, ils jugèrent inutile d'interroger plus avant ce butor. Les appels de trompe leur avaient paru éloquents. Leurs interlocuteurs, quels qu'ils fussent, se présenteraient bientôt. En attendant les émissaires barbares, ils prirent leur mal en patience, le pied calé sur l'étrier et les mains posées sur l'arçon. L'attente fut longue. Chauffés par le soleil, les chanfreins pourrissants exhalaient des relents fétides que la brise de mer ne suffisait pas à dissiper. Les souffles arrivés du large balançaient mollement les pendus avec les corbeaux perchés sur leurs épaules. Le vent bombait et plissait les robes noires comme s'il se fût agi de linge mis à sécher. Parfois, une rafale un peu forte gonflait les ourlets que rien ne retenait et qui ne dévoilaient que de l'air. Les morts oscillaient alors en une procession immobile, donnant plus l'impression de flotter que de pendre. Ils exudaient une grâce roide, comme s'ils planaient déjà tels des spectres. Il fallut quelque temps aux chevaliers pour comprendre ce qui produisait cette troublante impression. « Ils n'ont plus de pieds », constata Edan à mi-voix.
« Maudit païen !» Ragea le sire de Froec, supplicié des prêtres, de saints hommes venus donner une sépulture aux défunts.
Le singulier de l'affaire, c'est qu'il ne reste nul autre corps sur le champ de bataille, repartit Edan. Les barbares ont-ils poussé le cynisme jusqu'à martyriser ces malheureux après les avoir laissés remplir leur office? Le chevalier Opi, qui tuait le temps en jouant avec son oiseau, hocha négativement du chef.
Ils ont certes été cruels, mais n'ont pas montré pareil raffinement, intervint-il. Je n'ai rien perçu de tel lorsque je suis sorti de leur campement.
Du menton, il désigna deux aires incendiées en bord de mer, à mi-distance entre le pont et les remparts.
Ces étendues charbonneuses sont tout ce qui reste d'immenses bûchers,
dit-il un ton plus bas.
Les dépouilles malheureuses des humbles comme des grands y ont brûlé.
Ses deux compagnons contemplèrent d'un air grave les terrains calcinés où le vent soulevait parfois une traînée de cendres.
Impiété, infamie,
s'étrangla Gérian de Froec.
Profaner ainsi les restes de tant d'hommes d'honneur, priver leurs âmes du repos. Puisse le resplendissant me prêter vie assez longtemps pour venger ce sacrilège.
Ce forfait-là est peu dans leur manière, observa sombrement le chevalier de Vaumacel. Les Ouromans ont pour coutume de prélever les trophées les plus prestigieux et de piller les corps, mais pour les abandonner ensuite. Que peut signifier pareille crémation ?
Ils veulent sans doute nous frapper de terreur,
gronda Sir Gérian.
Ils n'embraseront dans nos cœurs qu'une soif de justice.
Vous parlez d'or, convint le chevalier aux épines.
les brandons allumés sur cette plage ne pourront s'éteindre que dans un sang scélérat. » Il avait toutefois l'expression plus pensive que courroucée. « Je crains, hélas, qu'il faille y voir plus qu'un outrage fait aux gens de guerre, » poursuivit-il avec réticence. « Peut-être l'ennemi a-t-il brûlé les morts pour éviter les maladies. Cela confirme qu'il compte s'installer avec Innsberg. Nous n'avons pas affaire à un raid, mais bel et bien à une invasion.
Dans ce cas, prions pour que les Artclyde n'aient pas négocié de trêve avec les Oer, ou pire encore,
grommela le sire de Froek.
Nous reprendrons le dessus s'ils sont toujours divisés. Dans le cas contraire, nous ne sommes pas au bout de nos peines.
L'elfe, sa grosse pie perchée sur une spalière, penchait un peu la tête pour échapper aux agaceries que l'oiseau lui faisait à l'oreille. Peut-être d'autres raisons peuvent expliquer ces bûchers funéraires, remarqua-t-il. À quelle malédiction ces guerriers ont-ils cherché à se soustraire? Pourquoi avoir mutilé ces corbeaux consacrés une fois pendus?
Qu'entendez-vous par là?
Demanda le sire de Froek.
Rien dont je sois assuré. Mais ce gibet a peut-être des vertus secrètes ou conjuratoires pour un ramassis de brutes sans cervelle.
Les trois preux durent encore patienter un moment. Le chevalier Hopi, qui balayait des yeux le vaste paysage, finit par attirer l'attention de ses compagnons sur un point au large. Le chevalier de Froek eut beau plisser des yeux, ébloui par les reflets du soleil, il ne vit rien d'autre que l'immensité des flots du golfe de Vixund. Edan de Vaumacel, quant à lui, entrevoyait le ruban nébuleux du littoral nord et crut peut-être deviner un ou deux navires presque sur la ligne de l'horizon. Il y a cinq coques noires, plus basses et effilées que des caravelles, décrivit l'elfe. Ce sont de grandes galères aux voiles ferlées et avirons rangés.
Ainsi le duc n'a pas menti à monseigneur Anguzel,
commenta Gérian de Froek.
Tchoudalia l'appuie par la mer.
Mais cinq bâtiments ne font pas une flotte. Où se trouve le reste de l'escadre?
Les trois preux n'approfondirent pas la question, car du mouvement animait enfin l'enceinte de la ville. Les vantaux d'une porte fortifiée s'ouvrirent et déversèrent une bande forte de plusieurs dizaines de guerriers. Un seul cavalier s'y détachait, mais le groupe, quoique marchant dans le désordre, n'en inspirait pas moins la crainte. Le soleil allumait des éclats sur les fers de lance et de hache, ainsi que sur une profusion hétéroclite de pièces d'armure. Soulevant un léger nuage de poussière, cette troupe trottait sans tenir de rang, dans un flottement un peu traître qui évoquait une grosse meute de loups. Les chevaliers s'alignèrent pour occuper toute la largeur du pont, à quelques pas de la rive nord. Posant la hampe sur le pied, le sire de Froek, qui gardait la position centrale, éleva haut la bannière de Kimark. Le gardien de la chaussée lui aboya quelques mots moqueurs avant de partir tranquillement à la rencontre de la troupe, la hache sur l'épaule. La bande adverse se resserra en arrivant à une portée de flèche de la rive. Il était difficile de déterminer si elle était composée des combattants d'un ou de plusieurs clans. Ni blason ni enseigne n'étaient visibles. Et c'est Karl paraissait plus lourdement armé que les barbares naguère affrontés par les sires de Froek et de Vaumacel. Aux côtes de mailles et aux broignes primitives de l'Ouromagne étaient superposés brassards, gantelets et coltins arrachés aux vaincus. Loin de prêter aux Ouromans un vernis de civilisation, ces pièces d'équipement ne faisaient qu'accentuer leur aspect sauvage. Les splendides dépouilles bromaloises se trouvait à moitié couverte de tartans d'étain ou de feutres grossiers. Alors qu'ils approchaient de la berge, les guerriers se mirent à vociférer.
Il crachait une cacophonie d'invectives rauques et de grondements féroces. Certains heurtaient leurs boucliers. D'autres ébauchaient quelques pas d'une danse en armes. Malgré ce chahut hostile et l'énorme supériorité des barbares, les chevaliers demeurèrent de marbre. Plus que le courage, c'était l'expérience qui leur conférait ce sang-froid. Pour avoir déjà combattu les Ouromans, ils savaient que la clique barbare se serait rangée en coin si elle avait vraiment voulu les charger. Les destriers, aguerris comme leur maître, demeurèrent aussi impavides. Seule la pie parut incommodée et prit son envol en ajoutant son jacassement au tohu-bohu. L'unique cavalier adverse se fraya tranquillement un passage au milieu de la presse houleuse. Un peu avachi sur sa selle, son armure disparate, faite de pièces prélevées sur différents harnois, lui donnait la prestance louche d'un seigneur brigand. Sa barbe tressée et ses cheveux pommadés au beurre rance, tout comme un gros torque qui affrontait deux têtes d'ours, affichait sa barbarie. Il poussa son cheval presque nez à nez avec celui du sire de Froek. Le coursier du chef Ouroman était un superbe alezan doré qui avait la force et l'élégance des destriers de Belestance. Le cavalier au torque toisait les trois chevaliers avec un sourire de dérision, s'amusant à parader sur un butin si reconnaissable.
« Je suis Gérian de Froek, chevalier banneret de Monseigneur Anguzel, comte de Quimarc. »
se présenta sèchement le chevalier d'argent à l'échelle de Sinople. « Êtes-vous l'émissaire du chef Artclyde ?» Le cavalier barbare répondit par quelques mots dans sa langue. Ses guerriers furent secoués par de gros éclats de rire.
« Chien chaud de gueule !» gronda le chevalier de Froek. « Je vous apprendrai à donner de la voix. N'y a-t-il pas un seul clabot dans ce chenil qui sache parler ?»«
On sait juste mordre, » rétorqua le meneur ennemi dans un léonien presque dépourvu d'accent.
Le chevalier Opie le considéra avec un intérêt poli. De son côté, le sire de Froek le dévisagea avec une défiance empreinte de menace.
« Alors voilà le valet que nous envoie faire Bassac !»
L'insulte fit ricaner le barbare.
« On ne t'a pas assez fouetté, chevalier, » rétorqua-t-il. « Appelle-moi encore valet, et ton maître ne reverra jamais son fils. »
« Que ne me donnes-tu ton nom, païen, que je sache héler mon ennemi ?»«
Tu as devant toi Gruffu d'Aplivark, Tan du Farbog et compagnon du roi Ferbassac. À travers moi, tu parles avec le souverain des Artclyde. Il t'entend par mon oreille, il te parle par ma bouche. »«
Quelle étrange conversation !» railla le sire de Froek. « Mais je n'ai pas fait tout ce chemin pour bavarder. Où est Monseigneur Claudas de Quimarc ?»«
Où est l'or, petit vassal ?»«
Je veux d'abord parler avec Monseigneur Claudas. Je dois m'assurer qu'il est toujours en vie. »
Le tan du Farbog s'assombrit.
« Pour qui tu me prends, esclave insolent ?»
gronda-t-il.
« Vous n'êtes que trois avec ce toquet d'elfe. » Je ne vous vois ni escorte ni coffre. Où cachez-vous 600 marques d'or? Sous le pas de vos chevaux?
600 ? S'étrangla le chevalier de Froek. Le montant de la rançon était de 400.
Le chef barbare cracha une grosse glaire.
400, 600. De toute façon, vous n'en transportez pas 100.
Grommela-t-il avec dédain. « Nous avons apporté la somme convenue, » rétorqua Gérian de Froek. « Mais nous l'avons laissée en lieu sûr, sous la garde de nos écuyers et de nos gens. Nous ne produirons cette rançon que si nous obtenons la preuve que Monseigneur Claudas est vivant. »«
Tu nous traites vraiment comme des voleurs sans parole. »«
Vous êtes des voleurs sans parole. »«
Et vous ?»«
C'est avec votre parole que vous allez payer ?
J'ai une avance ici même, mais au préalable, je veux parler à monseigneur.
Montre-moi d'abord la couleur de cet or. Je te donnerai ensuite ce que tu veux.
Le banneret de Kimark et le tan du Farbaug se mesurèrent un moment du regard avec une égale méfiance. Puis, comme sur une impulsion, Gérian de Froek tendit sa bannière au chevalier de Vaumacel et sortit de ses fontes une bourse pesante. La posant dans sa main gauche, il en dénoua le lacet et en exposa le contenu. Le soleil fit étinceler un petit trésor. Gruffu d'Ap Livark n'eut pas l'air très impressionné.
« C'est tout ?» renifla-t-il.
« Voici deux marques d'or en florin de Tchoudalia, ducat de Bromel et sou de la Marche Franche. »«
Tu comptes en faire quoi de tes deux marques ?»« Me donner la pièce. »
Tu voulais voir l'or de Kimark, tu l'as vu. »
Un sourire sarcastique éclaira la barbe du chef ouroman.
« Envoie, » dit-il en tendant la main, « et je t'accorderai le signe que tu demandes. »
Mais refermant la bourse d'un coup sec, Gérian de Froek la serra contre sa cuirasse.
« Je veux d'abord voir monseigneur Claudas, » s'obstina-t-il. « Tu auras l'or après. »
Le méchant sourire du Tan ne fit que s'accentuer.
Puis, secouant la tête comme s'il réprouvait un entêtement déraisonnable, il consentit à faire un vague signe à ses hommes.
En s'écartant, les guerriers dévoilèrent un captif jusque-là noyé dans la masse. Vêtu de haillons, le prisonnier avait le cou et les poignets chargés de fer. Un vieux capuchon tiré sur la figure empêchait de l'identifier. Il avait du moins une certaine carrure, une taille presque comparable à celle de ses ravisseurs. Le doute se peignit néanmoins sur la mine du chevalier de Froek. La barbe de l'otage était assez longue, mal taillée, et possédait des reflets grisâtres.
« Ôtez-lui cette capuche !» ordonna le banneret.
« L'or, d'abord !» rétorqua le Tan.
Je ne reconnais pas son allure, je veux voir son visage. »
De mauvaise grâce, le chef barbare grogna quelques mots dans sa langue. La coiffure du prisonnier lui fut brutalement arrachée, ébouriffant ses mèches clairsemées. L'homme cligna des yeux, aveuglé par le soleil. Ses joues étaient mangées par une barbe grisonnante. Les rides sillonnaient sa face osseuse et son front un peu dégarni. En découvrant ce visage usé, le chevalier de Froek ne chercha pas à dissimuler sa colère.
« Corps de roi ! » s'écria-t-il. « Pour qui nous prenez-vous ? Ce rustre n'est pas monseigneur Claudas !»
Le chevalier aux épines avait paru tout aussi surpris, mais continuait à scruter le prisonnier avec une expression un peu incrédule. Quant au Tan du Farbaug, il toisait ses interlocuteurs d'un air goguenard.
« J'en ai assez vu !» grondait le sire de Froek. « Serais-tu homme d'honneur, barbare, je te demanderai raison de cette insulte. Les pourparlers sont rompus. J'annoncerai au comte de Kimark qu'il n'y a plus signe de vie de son fils. Monseigneur Anguzel cherchera à tirer vengeance. Plus rien ne le retient de renforcer les troupes ducales.
Eh, c'est qu'il prend la mouche, le petit chevalier !»
s'esclaffa le chef Hartclyde.
Qu'est-ce que tu croyais obtenir en échange de deux malheureux marques ?
Je croyais traiter avec un guerrier, non avec un maquignon.
Tu voulais un signe de vie de ton maître. Interroge donc ce pouilleux. Il partageait la même chaîne ce matin encore.
Je ne connais pas ce gueux. Sa parole n'est que du vent. J'exige de voir monseigneur Claudas.
Et moi ? J'exige de voir 600 marques d'or. »
Se penchant un peu vers le sire de Froek, Edan de Vaumacel lui glissa à mi-voix.
« Je crois que je reconnais ce prisonnier. »«
Et qui est-il ? »
lui répliqua le banneret. « Un chevalier de vos connaissances ? » ?»« Pas exactement. »
Il me semble qu'il s'agit d'un sergent de l'ordre du Sacre. Je l'ai croisé ce printemps dans un doyenné de la seigneurie du Trèfle.
Que diable un sergent de l'ordre fait-il au pouvoir de ces brutes ?
Il aura combattu dans l'armée ducale.
Peut-on se fier à son témoignage ?
Les frères du Sacre n'ont qu'une parole. Celui-ci, en tout cas, m'avait paru droit et serviable.
Les deux chevaliers étudièrent le malheureux qui, encore ébloui, protégeait ses paupières d'une main entravée.
« Allez, ça suffit !»
grognait le tan du Farbourg.
« Le roi saura que vous n'avez pas les moyens de payer. »
« Non, attendez !» coupa le sire de Vaumacelle.
Et dressé sur ses étriers, il appela d'une voix forte
« Frère Vinmer, est-ce bien vous, frère Vinmer ?»
Le captif sursauta. Plissant les yeux vers le chevalier aux épines, il s'écria
« Sainte lumière, sire Edan, vous n'êtes pas mort !»
À peine avait-il prononcé ces mots que le chef ouroman lâchait sèchement un ordre. Plusieurs carles tombèrent sur l'otage et le muselèrent.
« Maintenant que les retrouvailles ont eu lieu, »
se réjouit le Tan.
« La suite dépend de vous. »«
Laisse-le parler, maudit païen !» gronda le sire de Froek. « Qu'il nous dise ce qu'il sait !»«
Je ne vais pas seulement le laisser parler, je vais même te le céder, ce vieux débris, mais à mes conditions. »
Et le chef barbare tendit à nouveau la main.
« Fils à putain !»
cracha le banneret entre ses dents serrées.
« Cet or est destiné au rachat de Monseigneur Claudas et à rien d'autre. »«
Il faudrait te décider. Je croyais que tu voulais savoir s'il était toujours vivant, Monseigneur Claudas. »«
Je ne rachèterai pas cet homme. De toute façon, les frères de l'ordre ne paient jamais de rançon. »«
Ah, je vois. Des sales rats. »
Gruffu d'Aplivark haussa les épaules d'un air fataliste.
« Dans ce cas, puisqu'il ne vaut rien, »
soupira-t-il. Se tournant à nouveau vers ses hommes, il se passa tranquillement l'index sur la gorge. Les guerriers qui tenaient le prisonnier tirèrent des poignards.
« Non !»
s'écria vivement Edan de Vaumacelle.
« Nous allons payer !»
D'un geste peu convaincu, le Tan retint ses bourreaux.
« Comme vous y allez !»
aboya le sire de Froek à l'adresse du chevalier aux épines.
« Vous n'avez pas mandat pour négocier, et cet or n'est pas le vôtre !»«
J'en suis conscient, sire Gérian. Mais nous nous déshonorerions en ne portant pas assistance à ce malheureux. Je paierai ma dette au trésor du comte. Je lui céderai l'un des chevaux que j'ai gagné à Lindinas. »
Le chevalier de Froek accueillit ces paroles sans cacher une moue de contrariété.
« Quel langage, sire Edan ! » gronda-t-il. « Ces comptes d'apothicaires sont indignes de nous. »
Et changeant brusquement d'attitude, il jeta la bourse à la figure du barbare.
« Voici ton or, prince Maï. Livre-nous ce prisonnier, que nous l'entendions. »
Le Tan, surpris, eut du mal à rattraper l'escarcelle à la volée. Quelques monnaies s'en échappèrent qui roulèrent aux pieds de sa monture. Aussitôt, les guerriers proches jouèrent des coudes pour les rafler. Loin de s'en offusquer, le chef barbare éclata de rire. Il puisa dans la bourse et jeta de pleines poignées de pièces en un geste de semeur. Aussitôt, le chaos s'empara de sa bande, qui se dispute alors éparpillée avec une frénésie de porcs menés à la glandée. Oublié dans l'instant, le captif demeurait interdit au milieu des bousculements.
« Frère Vinmer !» appela Edan. « Venez ! Hâtez-vous !»
Secouant sa stupeur, le frère sergent se mit en marche, à travers l'agitation qui dégénérait en rixe par endroits. Tout en continuant à hurler de rire, le Tan du Farbourg le suivit de l'œil sans chercher à l'arrêter. Le prisonnier arriva sans mal au niveau de ses libérateurs.
« Avant toute chose, »
l'apostropha Gérian de Froek,
« avez-vous vu Claudas de Kimark ?»«
Je l'ai vu. » »«
Est-il en vie ? »
Quand j'ai été emmené, il était vivant et en bonne santé.
Loué soit le resplendissant.
Vous nous donnerez des détails lorsque nous serons en lieu sûr. Se tournant à nouveau vers Gruffu d'Aplivark, le banneret enchaîna sur un ton tranchant.
Nous emmenons ce prud'homme. Nous prendrons le temps de l'écouter au calme. Si nous sommes convaincus par son témoignage, nous reviendrons demain avec la rançon.
Le barbare eut un haussement d'épaule.
« Je laisse Olvar à la garde du pont, »
répondit-il d'un air négligent.
« Tu n'auras qu'à le faire sonner quand tu voudras payer, mais si Ferbassac doit attendre jusqu'à demain... »
Une lueur rapace passa dans sa prunelle.
« Alors, il faudra cracher 800 marks. »«
800 !» se cabra le chevalier de Froek. « Quelle impudence ! À force de réclamer toujours plus, ton chef risque de ne saisir que du vent !»«
Oh, rassure-toi, si tu le déçois, il se consolera avec la tête de Claudas. » »«
Je n'ai convoyé que la somme convenue, 400 marks. Ce sera ça ou rien !»«
Eh bien, je rapporterai ta proposition au roi. À ce prix-là, il te rendra peut-être la moitié de ton maître. »
Pendant que les deux émissaires échangeaient ces mots, le chevalier aux épines tendait la main à leur nouveau compagnon.
« Montez avec moi, frère Vinmer, »
le pressait-il.
« Au campement, nous vous donnerons une tenue et un cheval. Mais d'ici là, Loriagor nous portera tous les deux. »
Toutefois, le vétéran ne saisit pas le bras qu'on lui offrait. Sa figure amaigrie demeurait tournée vers le chevalier au pis, qu'il considérait avec défiance.
« Cet étranger est-il de votre troupe ? »
demanda-t-il sur un ton peu amène.
« En effet, si Ramlin nous honore de son assistance, si vous préférez chevaucher avec lui, je ne doute pas qu'il vous emmènera de bonne grâce. »
« Le resplendissant m'en garde !» se récria le frère sergent.
« Et qu'il vous garde également !» Sire Edan, car cette engeance-là est traîtresse.
Il court bien des comptes au sujet des elfes,
répondit le sire de Vaumacel.
Beaucoup sont mensongers.
Qui vous parle de comptes? Ces elfes-là ont partie liée avec les Ouromans.
Leur truchement nous a été précieux. C'est à l'intervention de Sire Ramlin que vous devez la liberté.
« Croyez-moi, je sais faire la différence entre des ambassadeurs et des espions. »
Le chevalier Opi avait reçu ce camouflet avec un dédain teinté d'ironie.
« De beaux lauriers à ma gloire !»
fit-il mine d'apprécier.
« Je ne puis croire qu'on me cherche querelle. Si ma compagnie déplaît, de quel droit l'imposer à ce gentilhomme ? Eh ! Qu'il s'en retourne à pied ? Qu'il profite de sa liberté, en somme.
Ah, de grâce, ne disputons pas au nez de l'ennemi,
s'anima le sire de Vaumacel.
Frère Vinmer, montez avec moi. Gardez vos griefs pour plus tard. S'ils sont fondés, vous pourrez nous en entretenir au camp.
Pendant que le chevalier aux épines aidait enfin le rescapé à sauter en croupe, le sire de Froek prenait congé du Tan.
Plus de coups fourrés! Lança-t-il en guise d'adieu. « Demain, je veux parler à Monseigneur Claudas. »
« Et moi, je veux récupérer les coffres de mon roi, »
rétorqua le chef barbare. Les trois chevaliers tournèrent bride, sans précipitation, mais sans s'attarder pour autant. Les guerriers ouromans saluèrent leur départ par une vocifération railleuse. Une fois que les quatre compagnons eurent quitté le pont, l'allure de leur destrier les mit rapidement hors d'atteinte de la piétaille. Toutefois, ils ne relâchaient pas leur vigilance et continuaient de scruter les étendues littorales autour d'eux. Dans ce paysage plat, un piège meurtrier dont les émissaires du comte de Kimark ignoraient encore le fin mot s'était inexplicablement refermé sur l'armée du Khal. Que représentaient quatre combattants en regard des milliers de preux qui avaient mordu la poussière sur cette prairie? Le danger pouvait se nicher partout, dans ces étendues vides, à commencer, peut-être, dans leur propre groupe. Le captif récemment libéré ne quittait pas de l'œil le chevalier au pis.